Vous avez été attentif. Donc vous pouvez me résumer en une phrase la théologie de saint Paul. Deuxième lecture. Bon, d'accord. Je vois qu'on est en début de carême comme avant. Hein. C'est simple. Le péché est rentré par un seul homme, la grâce est arrivée par un seul homme, et la loi met en évidence le péché. Donc la loi nous entraîne au péché, et la grâce nous donne le salut. C'est toute la théologie de saint Paul là-dessus. La loi met en évidence le péché, la grâce met en évidence le salut. Nous sommes appelés au salut par grâce et au péché par la loi. Donc choisissons la grâce plutôt que la loi. Les textes d'aujourd'hui sont assez simples, hein, de la désobéissance à l'obéissance. Je pourrais m'arrêter là et m'asseoir, mais on va essayer de comprendre un tout petit peu plus. Adam et Ève, oh, ils sont mignons tous les deux, tout nus, qui batifolent dans le jardin d'Éden, mangeant ce que Dieu a prévu pour eux. Pas de problème. Il y a une parole qui a été dite, un entredit entre l'homme et Dieu, ce qu'on appelle un interdit. Et l'interdit, c'est « tout est à toi ». Mais l'arbre du milieu du jardin, celui de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras pas. C'est tout. C'est simple. Un seul interdit et tout le reste est possible. Mais un, ça suffit pas. Pourquoi Dieu a mis cet arbre au milieu du jardin? Il l'aurait enlevé et on ne serait pas là. Adam et Ève seraient toujours nus dans le jardin d'Éden, en train de batifoler et de manger des pommes et des poires. Mais non. Il y a cette parole que Dieu a dite. Dieu est pervers. Dieu veut que nous soyons acteurs de notre liberté. Et cet arbre est là pour nous permettre d'exercer notre liberté, et la liberté s'exerce dans l'obéissance. Une parole a été dite, ma liberté c'est de suivre cette parole ou pas. Pendant quelque temps, Adam et Ève suivaient cette parole jusqu'au moment où le serpent, le plus rusé des animaux des champs, vient séduire l'humanité. Alors, c'est Ève qui s'est présentée la première, tant pis pour elle, hein. Les femmes sont toujours plus intrépides que les hommes. Donc voilà, Ève qui se laisse séduire par le serpent. Séduire, c'est attirer à soi. Et c'est l'autre nom du tentateur, du démon, du diviseur, du Satan. Il attire à lui, il séduit, il amène à lui. Et voici la parole qu'il donne, c'est la parole de Dieu déformée. La parole de Dieu, c'était de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, vous n'y toucherez pas. Ce que dit Satan, c'est « cet arbre donne l'intelligence », ce qui n'est plus tout à fait la même chose. On ne parle plus de connaissance du bien et du mal, on ne parle pas de discernement, parce que savoir ce qui est bon et ce qui est mal, c'est discerner. Là, le Satan ne parle plus de discernement, mais d'intelligence. Cet arbre donne l'intelligence, et qui ne voudrait avoir l'intelligence? Donc elle se laisse séduire, croque la pomme et la partage à son cher Adam qui arrive par là un peu le nez en l'air, quoi. L'intelligence, ce n'est pas le discernement. Adam et Ève avaient l'intelligence. Et maintenant, ils se rendent compte de la fracture qu'ils ont mis entre la parole de Dieu et eux. Et ils se rendent compte d'un seul coup qu'ils doivent se cacher, qu'ils sont nus. Ils étaient nus, et ils discernent qu'ils sont nus parce que le péché est entré. la désobéissance est entrée dans l'humanité et nous en payons le prix depuis. À l'autre bout de la chaîne, Jésus. Jésus qui vient d'être révélé comme le Fils de Dieu. Rappelez-vous le baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie, tout mon amour, tout ce que vous voulez. Père, Fils et Esprit sont présents sur les bords du Jourdain et Jésus est poussé par l'Esprit dans le désert. Lieu de la tentation, mais aussi lieu de la présence de Dieu. Il est dans le désert pour apprendre ce qu'il est, qui il est. Et il a faim au bout de 40 jours. Vous savez, 40, c'est un chiffre pour l'homme. C'est 10 fois 4. 10, c'est un temps long. 4, c'est pour l'homme. Donc, c'est un temps long pour l'homme. Et on le sait, les sciences nous disent aujourd'hui qu'on peut faire un régime et un jeûne de 40 jours. Au-delà, c'est dangereux. Mais jusqu'à 40, il y a des jeûnes assistés qui permettent de tenir pendant 40 jours. Au-delà, il y a quelque chose de notre humanité qui est perdu d'une manière irréversible. Alors voilà, au bout de 40 jours et 40 nuits, hein, lui est aussi dans le jeûne durant la nuit, ça y est, il eut faim et c'est à ce moment-là que le tentateur qui a laissé Adam et Ève bien tranquilles, arrive vers Jésus. Et le voilà qui va essayer d'utiliser les mêmes armes qu'il a utilisées pour Adam et Ève. Il veut les séduire, les diviser, l'éloigner de la parole de Dieu sous trois tentations. On les connaît tous, hein, ça fait un moment qu'on vient à la messe durant le temps de carême, donc c'est la tentation politique, la tentation religieuse et la tentation économique. Et oui, parce qu'on pourrait les lire comme ça aujourd'hui. On va commencer par la première, la tentation économique. Transforme ces pierres en pain. Fais-toi plaisir. Remplis tes placards qu'ils débordent, qu'il n'y ait de place pour rien. Remplis tout ce que tu as. Ne laisse aucun espace, aucun temps, aucun lieu de rencontre. Consomme, consomme, consomme. Toujours plus et encore davantage. Et toutes les semaines, on crée des nouveaux produits pour que le consommateur ait de nouveaux désirs et qu'il y succombe. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est un frein à cette consommation, à cette manière de se remplir pour oublier tout ce qui se passe, pour ne pas être conscient des difficultés de ce monde et des difficultés de ceux qui nous entourent. Quand on est rempli, il n'y a plus de place pour rien. Et le premier combat que Dieu nous invite à faire durant le carême, c'est de laisser un peu d'espace disponible dans nos placards, à notre table, à notre agenda pour accueillir l'autre. Tentation économique, celle qui est la plus subtile parce qu'elle est tellement présente dans nos boîtes aux lettres qu'on ne voit plus que c'est une perversion. Deuxième tentation, la tentation religieuse. Saute et les anges vont te récupérer. Fais un miracle pour toi, pour ton bien propre. Mon Dieu, pourquoi est-ce que j'ai pas gagné au loto? Mon Dieu, pourquoi est-ce que ça va pas? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mes clés? C'est cette tentation religieuse, que ma volonté soit faite. Notre prière, vous le savez, dans notre Père, c'est que ta volonté soit faite. Mais la petite rumeur qu'il y a derrière nous, c'est que ma volonté soit faite. Je veux bien croire en toi si tu fais ce que je dis. Si tu m'obéis, Dieu, si tu ne m'obéis pas, c'est que tu n'existes pas, donc je n'ai pas besoin de toi. Et on regarde le monde et ce monde se passe de Dieu parce que il nous a laissé cette liberté du discernement. de l'agir. Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous faisons et de ce que nous demandons? Tentation religieuse à servir Dieu à nos désirs immédiats. Troisième tentation, la tentation politique. Celle-là, surtout ces jours-ci, est un peu compliquée. Parce que qu'est-ce que la politique, si ce n'est la gestion de la cité pour le bien de tous? Et on voit bien que ce que le tentateur met en place, c'est « viens me servir ». Tout ce que je possède, je te le donnerai. Qui a donné toutes les villes, tous les villages au tentateur, à Satan? Qui a démissionné de sa responsabilité temporelle pour laisser d'autres choisir à leur place? Cette tentation politique, elle est toujours d'actualité. On remet notre responsabilité dans les mains d'un tiers et ce tiers-là a tout pouvoir. Et s'il ne fait pas ce que l'on a choisi, eh bien finalement, comme on s'est soumis, on continue à le laisser faire. Et il n'y a plus cette distance où nous sommes engagés, où nous sommes responsables du créer. La tentation politique, elle est de se défaire de notre responsabilité et de tout donner aux mains d'un tiers qui fait ce qu'il veut finalement et qui pourrait aller jusqu'à imposer sa volonté à ceux qui, sans doute, l'ont démocratiquement élu pour en faire, n'est-ce pas, parfois un tyran. Donc, les trois tentations que le Seigneur a vécu, nous les vivons au quotidien, mais elles sont devenues tellement habituelles que nous sommes incapables de les voir et les discerner. Le salut est entré dans le monde par la volonté d'un seul homme qui nous a rendu notre liberté, qui nous a demandé d'exercer notre responsabilité et qui nous demande d'ouvrir nos mains pour l'accueil de l'autre. C'est peut-être cela, le carême, qui plaît à Dieu.